Et à midi, on aime l'été. Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver en ce 16 août 2017 pour vous présenter ce magazine estival de Canal M avec bien sûr toujours pas mal d'invités et de nouvelles. Alors les nouvelles, je vais commencer par ça dans quelques secondes, mais les invités aujourd'hui, Anne-Marie Belzil, responsable des relations médias à Tourisme Abitibi-Témiscamingue. On continue notre tour du Québec accessible. Également à l'émission aujourd'hui, si j'arrive à tourner ma page, voilà. Jean-François Parenteau, le maire de l'arrondissement de Verdun, donc de la ville de Montréal, l'arrondissement qui a souligné la réouverture du parc Wilson qui a été réaménagé à grands frais pour être entièrement accessible. Également à l'émission, Maxime Despomerleau nous fait connaître comment bat le pouls, nous fait savoir d'ailleurs ce serait mieux, comment bat le pouls de Montréal. Alors les événements du 375e avec notamment un tour d'horizon de Avoudo, Montréal Symphonique qui va être présenté samedi prochain. Et puis si on a le temps aussi, il sera question du théâtre La Roulotte qui est du théâtre pour enfants. Et pour finir, une chronique judiciaire et plutôt une chronique justice. La justice à deux vitesses, le facteur économique, c'est le sujet que nous propose aujourd'hui Laurent Capistran-Trépanier. Alors, quelques nouvelles. Un nouveau médicament ralentit la progression de la sclérose en plaques, peut-on lire sur le site de tvanouvelle.ca. C'est une bonne nouvelle pour les milliers de personnes qui sont touchées par la sclérose en plaques. Santé Canada a approuvé un médicament qui réduit considérablement les poussées de la maladie. « Je ne pouvais plus me tenir sur mes deux jambes, mes mains ne fonctionnaient plus, j'avais de la misère à parler », explique Louise Patenaud, atteinte de sclérose en plaques depuis l'âge de 49 ans, elle en a aujourd'hui 70. Le nouveau médicament que vient d'approuver Santé Canada suscite beaucoup d'espoir pour les 20 000 Québécois et les 100 000 Canadiens touchés par la maladie. C'est un médicament qui permet de réduire beaucoup l'activité de la maladie, donc il diminue le nombre de poussées que les patients vont faire dans une année, le nombre de symptômes, la durée des symptômes. C'est un médicament qui diminue aussi le handicap à long terme, de dire le neurologue et chercheur au CHUM Alexandre Pratt. Une quarantaine de patients du Québec ont participé aux études cliniques. Les examens par imagerie médicale démontrent une réduction des lésions. Pour l'instant, il est disponible uniquement pour les personnes touchées par la forme récurrente, rémitante de la maladie. En rémission, donc, les symptômes disparaissent. La plupart du temps, ces patients-là sont des patients qui marchent dans la rue ou des gens que vous connaissez. On ne peut même pas s'apercevoir qu'ils ont la sclérose en plaques, sauf quand ils font une poussée. Ce même traitement ailleurs dans le monde a été approuvé pour la forme de l'ASP progressive primaire. Et ça, c'est une grande nouveauté qui va créer beaucoup d'espoir, affirme Louis Adam, le directeur général de Sclérose en Plaques, section Québec. Madame Patenaud souffre de la forme progressive et craint les effets secondaires. Plus ils trouvent des médicaments nouveaux, meilleurs ils sont, parce que les premiers, ça n'allait pas du tout, ajoute-t-elle. C'est un médicament qui se donne seulement deux fois par année par voie intraveineuse. C'est un des gros avantages de ce médicament. Les patients n'ont pas besoin de prendre des pilules ou de se présenter chaque mois pour des injections, de dire le docteur Pratt. On ne sait pas combien coûtera le médicament ni quand le fabricant, Roche Canada, déposera une demande afin qu'il soit remboursé par le régime public d'assurance médicaments du Québec. La musique pour démystifier la déficience intellectuelle. Madame Morin donne depuis 2 ans des cours à 6 et parfois à 7 élèves en réadaptation en déficience intellectuelle à Claire Foyer, à Amos. À raison d'une fois par semaine, vous aurez compris que nous sommes en Abitibi-Témiscamingue et que c'est dans l'écoabitibien.ca. J'éprouve un pur bonheur de leur enseigner. Il s'agit de ma plus belle clientèle. Ils sont heureux et participent le sourire aux lèvres, affirme celle qui enseigne depuis une quarantaine d'années. La musique possède ce pouvoir mystérieux d'aller au-delà des différences et des préjugés. Grâce à un spectacle, Louise Morin souhaite démystifier la déficience intellectuelle. Les gens ont parfois peur des handicapés, mais ils seraient surpris de voir l'évolution de leur talent en 2 ans. Chaque note représente une couleur, cela facilite l'apprentissage, estime l'enseignante. Les élèves feront la première partie et seront à l'avant-plan pour prouver ce qu'ils sont capables de faire. Ils joueront de la harpe, du piano, de l'accordéon ou du carillon. Le spectacle égayera les yeux et les oreilles. On sera 29 artistes sur la scène, dont des membres de l'ensemble vocal de l'Amitié, une classe de danse, des harpistes, une chanteuse merveilleuse et des musiciens. On jouera Over the Rainbow, Angels et Tu ne sauras jamais, défile Louis Martin. Le spectacle se déroulera au Théâtre des Esquerres d'Amos à 13h30 le samedi 26 août. Le billet coûte $20 par adulte, 10 par étudiant et c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Il est possible de l'acheter auprès des artistes ou encore auprès de Madame Morin dans le 819-444-9225. La Fondation Pierre Marchand soutient les enfants et les adultes vivant avec une déficience intellectuelle qui bénéficient de services spécialisés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. L'argent amassé permet de fournir des appareils pour améliorer leur qualité de vie, financer des besoins essentiels à la vie en appartement, payer des activités pour maintenir leur bien-être physique, mental et émotionnel, leur payer des camps spécialisés et faciliter leur accès à des services utiles à leur vie. D'après un article trouvé dans information.handicap.fr, écrit par Aimé Le Goff, une révolution dans les prothèses, des modèles intelligents. L'objectif de cette initiative, développer un produit innovant sur le marché intelligent, c'est révolutionner les modèles de prothèses et c'est ce qu'entend de faire le groupe d'ingénierie Ametra et la société Protéor, des spécialistes français de l'orthopédie externe, qui travaillent conjointement sur la prothèse fémorale mécatronique genou, cheville, pied. À la fois mécanique, hydraulique et électrique, elle constitue une innovation majeure sur le marché industriel médical. Le fait de proposer une solution complète d'appareillage intégrant l'électronique permet notamment d'adapter le comportement de la prothèse aux différentes situations de la vie quotidienne. Marche sur le plat, pente, escalier, quelle que soit la vitesse de marche, expliquent les initiateurs du projet dans un communiqué. Cette première prothèse d'ensemble est un projet à la fois inédit et captivant, estime Guillaume, ingénieur d'études chez Ametra. Notre mission est d'apporter notre expertise et nos connaissances sur la production et les plans de montage. En somme, notre objectif est d'enlever toute ambiguïté sur la conception. Alors, chiffrage, géométrie, les plans de montage sont confectionnés avec une précision d'orfèvre pour analyser chaque pièce du prototype et contrôler les chaînes de côtes, le tout sans perdre de vue toutes les contraintes inhérentes à ce projet innovant en termes de durée de vie, d'usure ou de résistance. Pour Nicolas Pipponio, le chef de projet chez Protéor, apporter une solution innovante sur le marché, oui, mais aussi et surtout améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Il ne faut pas perdre de vue que ce dispositif doit permettre à de nombreuses personnes de retrouver une vie active et dynamique. La synergie de nos savoir-faire est consacrée à cet objectif. L'Institut national du sport de Québec, l'INS Québec, accueille avec enthousiasme le groupe national d'entraînement de boccia comme groupe d'entraînement de haut niveau. Il s'agit du premier sport entièrement paralympique à s'installer au complexe de l'Institut situé au Parc olympique. Profitant de son propre plateau sportif, ce nouveau sport résident bénéficiera dorénavant d'un accompagnement par les experts médicaux et scientifiques de l'INS Québec, en plus d'accéder quotidiennement aux installations de calibre mondial du complexe de l'Institut. Le boccia devient ainsi le 9e sport à s'installer au complexe de l'INS Québec, avec l'escrime, la gymnastique, le judo, la nage synchronisée, la natation, le patinage de vitesse court-piste, le plongeon et le water-polo. Alors, on va tout de suite se tourner vers mon ami Maxime D. Pomerleau, qui était dans les couloirs. Puis on lui a dit, tiens, qu'est-ce que tu fais, ma belle Maxime, tout de suite? Elle m'a dit, mais je suis libre. Alors je lui ai dit, allez, on y va, on va en studio.
Et oui, alors j'irai dans les couloirs de Canal M, tout bonnement, comme ça, par hasard.
Par hasard, tout à fait. Elle a vu de la lumière et s'est dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe là. Non, Maxime, beaucoup plus sérieusement, vous nous amenez, ma foi, vous allez nous faire, nous montrer et nous donner l'envie de sortir à Montréal.
Oui, tout à fait. Cette fois-ci, pour ma chronique, je me concentre sur les activités liées au 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. Bon, on sait qu'on est un peu envahi par ces propos.
Ah bon?
Légèrement. Il y a vraiment une effervescence qui est incroyable et particulièrement l'été. Et donc, il y a les dernières activités qu'on peut encore attraper, aller jusqu'au début septembre, à commencer par le spectacle Montréal à vue d'eau, qui est présenté au Quai King Edward du Vieux-Port. C'est une création signée Compagnia Finzi Pasca. Mm-hmm. C'est un spectacle multimédia qui rend hommage au fleuve Saint-Laurent. Et c'est l'un des plus grands succès de la programmation du 375e. Ça roule déjà depuis le début du mois de mai. Et donc, c'est jusqu'au 2 septembre qu'on peut l'attraper. Je dis tout de suite, c'est gratuit. Mm-hmm. Par contre, il faut réserver ses billets en ligne quand même assez rapidement parce que couru. Donc, c'est un spectacle qui superpose des extraits de films, d'animations, des animations 3D également, des images d'archives sur des murs d'eau au premier plan. C'est une fontaine qui fait un peu penser à une queue de paon, de la manière dont elle est présentée. Ce qui nous permet de faire des projections, des différents types de projections.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est à l'avant-plan. Et à l'arrière-plan, il y a un long mur formé de 94 conteneurs qui rappelle un peu le jeu Tetris par les blocs empilés, les formes angulaires. On a recouvert la tour des convoyeurs aussi et qui sert de mur de projection pour l'occasion. C'est 30 fontaines qui en font partie. Et par exemple, sur ces queues de paon, où est-ce qu'il y a parfois des projections? Il y en a 4 majeures. Parfois, ce sont les mêmes qui sont diffusées. Parfois, ce sont des projections qui partent, par exemple, de la gauche vers la droite, comme une procession de canaux.
Oui.
C'est quelque chose qu'on peut voir. Alors, ça se concentre sur différents événements qui sont liés au développement du Vieux-Port et vraiment à l'histoire du fleuve. Particulièrement, il y a un tableau que j'ai trouvé particulièrement impressionnant, c'est le grand incendie de 1721. Tout prend une teinte rouge, orangé. On met l'accent sur le feu. C'est vraiment très impressionnant. On arrive quand même à s'immerger dans les tableaux qui sont présentés. J'ai quelques critiques. Par contre, le fil narratif est plutôt faible. On fait surtout une procession, justement, un enchaînement de tableaux différents. Et aussi, il y a plusieurs textes qui sont affichés à différents moments sur les containers pour, entre autres, nous mettre au courant de l'épisode dont on parle. Et il reste quelques secondes à peine. Si on est bilingue, on est capable de commencer à lire en français et terminer en anglais, mais autrement, c'est vraiment trop rapide. Et évidemment, il n'y a pas non plus... ce n'est pas décrit, donc... Donc, ça, pour les personnes malvoyantes, ça peut être quelque chose d'un peu contraignant.
Un petit peu difficile,
C'est ça, ils vont suivre. Par contre, à la musique, qui est vraiment très, très prenante. Mm-hmm. Et il y a une zone, évidemment, pour personnes à mobilité réduite, du côté court. Des chaises sont disponibles pour les accompagnateurs. Et c'est diffusé le mardi, le mercredi à 21h30 et 22h30. Jeudi, vendredi, samedi, il y a 3 représentations, 20h30, 21h30 et 22h30. C'est 30 minutes, c'est un bon divertissement.
Oui.
C'est familial, c'est un spectacle honnête, donc
je
vous invite à l'attraper.
Sans compter que c'est vachement sympa dans ce quartier-là, donc comme ça dure qu'une demi-heure, ben après vous pouvez vous amuser avec les enfants,
vous pouvez aller
faire un tour.
Et on est juste à côté du Centre des séances de Montréal,
donc on peut
combiner des sorties.
Absolument.
Prochaine sortie, c'est ce samedi, le spectacle Montréal symphonique 19 août, dès 21h. On a mis beaucoup de promotions aussi là-dessus. Ce spectacle gratuit qui réunit pour la première fois sur scène trois des prestigieux orchestres symphoniques de Montréal, soit l'Orchestre symphonique de Montréal, l'OSM, l'Orchestre métropolitain et l'Orchestre symphonique de McGill. On parle de 350 musiciens, chanteurs et choristes qui seront réunis au pied du Mont-Royal. C'est sous la direction musicale du chef Simon Leclerc. C'est sur les thématiques des cinq saisons, la cinquième saison représentant l'imaginaire.
On connaît quelques... Les cônes oranges.
Il va peut-être y en avoir un petit clin d'œil. On connaît quelques artistes populaires qui performeront aussi, dont Pierre Lapointe, Patrick Watson, Rufus Wainwright, Cœur de pirate, Isabelle Boulay, Alain Lefebvre, Champion, Elzapi. Vraiment, on est allé chercher assez large. Mm-hmm. Et on sait qu'on fera aussi un clin d'œil au cinéaste Denis Villeneuve. L'ensemble interprétera deux pièces de la musique originale de son film Arrival, composé par Johan Johansson, et des images du film seront aussi projetées. Ça débute à 21h, comme je l'ai dit. C'est d'une durée de 2 heures. C'est sur le flanc est du Mont-Royal qui donne sur l'avenue du Parc et des Pins juste au sud. J'ai pu avoir accès à un plan un peu de l'espace pour connaître, entre autres, l'espace réservé aux personnes à mobilité réduite. C'est justement plus près de cette rue du Parc où est-ce qu'il y a le débarcadère pour le transport adapté. Et on peut se rendre par un petit chemin dans ce parc, à une zone qui est du côté court de la scène.
Voilà. Sinon, j'imagine que si vous n'êtes pas très porté sur la foule, comme c'est mon cas, on peut aussi voir ça dans des petits parcs, partout sur l'île, je pense.
Tout à fait. C'est diffusé en simultané dans 18 parcs, dans les 18 arrondissements de Montréal. Donc, c'est l'information qui est disponible sur le site officiel 375mtl.com. Il y a aussi différents événements Facebook, comme liés au parc Jarry, à différents parcs pour avoir cette information-là. Mais on peut le voir en diffusion.
Oui, c'est ça, parce que moi, c'est ce que je me dis. Écoutez, je ne suis pas en chaise et je vais choisir quelque chose d'un petit peu plus petit pour aller assister à cette grande messe-là. Ça va vraiment être extraordinaire. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu nous parler de cela aujourd'hui, parce que j'ai très hâte à cette soirée-là. Et puis, à vous deux, allez-y. C'est gratuit, c'est sympa, ça dure 30 minutes. Puis allez prendre une bonne marche après, une bonne crème glacée. Merci, Maxime.
Ça me fait plaisir, Clotilde.
Salut.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit d'être mon menteur, mais moi je crois tout ce qu'il me dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme des bonbons menthe, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. D'être à moi sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qu'il m'a joué 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Et on continue, comme on l'a fait pendant toute la saison, à ce magazine Aime l'été, de vous faire voyager, de vous donner peut-être envie de découvrir certaines régions un petit peu plus éloignées du Québec, mais qui offrent, elles aussi, des lieux accessibles sur le plan touristique et les cultures et de la culture et des loisirs. Et là, hop, on se transporte en Abitibi-Témiscamingue avec Anne-Marie Belzile, responsable des relations médias de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Je suis contente, ça fait deux fois que je le dis, sans bûcher dedans. Bonjour, Madame Belzile.
Bonjour, Madame Seil.
Vous allez bien?
Oui, très bien.
Bon. Ah oui, très, très bien. Je vous remercie. Madame Belzile, dans votre belle région, il y a des efforts hein, également qui sont consentis, qui sont faits pour pouvoir accueillir toutes sortes de clientèles. Et c'est de tout cela dont je voudrais que nous parlions aujourd'hui.
Oui, absolument. Puis ça va d'expériences totalement diverses aussi, bien sûr.
D'accord.
On parle, autant on est connu pour les activités en plein air. Donc, il y a, par exemple, au Parc national des Guebelles, des sentiers qui sont accessibles.
Ah oui?
Donc, c'est une belle manière de profiter de la région. Le sentier de la Castorière, d'ailleurs, qui nous permet d'observer les castors aussi. Oui, il y a ces possibilités-là. Il y a les parcs botaniques aussi qui sont accessibles, celui de Rouyn-Noranda.
Oui.
Donc, sinon, si on veut parler plus de patrimoine et d'histoire pour découvrir comment s'est développée la région, il y a toutes sortes de possibilités. On peut visiter la première maison construite en Abitibi ou au Témiscamingue.
Ah oui?
Il y a le dispensaire de la garde qui nous parle des infirmières de colonie. Il y a aussi le musée de la Poste et le boutique de la Forge. Donc, comment fonctionnait le système de poste aussi lorsque la région s'est développée. Il y a le camp Spirit Lake qui a été un camp de détention pour des ressortissants des pays ennemis pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'était pas un camp de concentration pour faire attention, mais un camp de détention, pardon. Donc, aujourd'hui, c'est un centre d'interprétation.
Okay.
Il y a l'école du rang 2, où là, c'est comment on vivait les écoles de rang aussi. Donc, avec tous les jeunes dans la même classe, ça allait de la première année jusqu'à la sixième et le secondaire en arrière. Donc, on vit cette journée-là aussi. Il y a son interprétation de la foresterie. On peut vraiment voir un peu tous les pans de l'histoire de la région. Comme on a une jeune histoire, c'est facile de la mettre en valeur, tout ça.
Oui. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'artefacts comme ça qui ont été conservés, quoi.
C'est ça. Donc, les gens ont bien su bien conserver, bien mettre en valeur. Je pense qu'il y a un des incontournables, c'est le Fort Témiscamingue au Badjouan, qui est un ancien poste de traite.
Ah, d'accord.
Qui est mis en valeur par Parc Canada. On sait que Parc Canada ouvre ses portes gratuitement aussi pour le 150e du Canada. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir le visiter.
Bien sûr.
Donc, on parle de son patrimoine, mais pour les animaux aussi, il y a le refuge Pajot. Oui, le refuge Pajot, c'est un endroit où, quand il y a des animaux qui sont blessés, des jeunes orphelins abandonnés, on les apporte au refuge Pajot. Ils en prennent soin.
De toutes sortes.
Oui, mais en fait, c'est des animaux de proximité, donc la forêt boréale qu'on a chez nous.
Ah, d'accord.
Les loups, les ours, les oiseaux aussi, ça va des chouettes, les harfangs des neiges. Donc, ils en prennent soin. Dans le meilleur des cas, ils vont les libérer par la suite.
Okay.
Donc, c'est vraiment s'il y a une aile brisée, par exemple, pour un oiseau, de réparer et de pouvoir remettre en liberté. C'est sûr qu'il y a certains animaux qui ont été trop imprégnés, donc ne peuvent pas être libérés.
Voilà, oui, c'est ça.
Donc, à ce moment-là, ils les gardent à plus long terme. Là, ça devient vraiment leur bébé. Là. On en prend soin énormément. Puis,
et que les enfants doivent aimer ça.
Oui, puis ce qu'il y a de bien, c'est le contact avec les animaux, mais la mission qu'il y a derrière ça aussi. Donc, l'éducation, chaque animal a son petit nom, son histoire aussi. Donc, c'est vraiment fascinant de faire la visite. Il faut vraiment le faire avec un guide, parce que là, vraiment, on connaît l'histoire de chaque animal, comment ils sont arrivés, pourquoi ils sont restés, où est-ce qu'il va être libéré éventuellement aussi. C'est super intéressant comme vraiment. Là. Puis, autrement, c'est sûr qu'on a beaucoup d'événements aussi dans la région. Je vous parle de ceux qui s'en viennent bientôt. Il y a la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien cette fin de semaine.
OK.
C'est la rencontre des producteurs de la région. On célèbre la saison qu'on vient d'avoir. On met en valeur ces produits-là. Les chefs d'ici vont cuisiner nos produits de la région. Donc, c'est très festif. Il y a des spectacles de musique aussi sur le bord de l'eau.
Quels produits spécifiquement seront mis en valeur, Madame Belzile?
Ben, il y a entre autres nos fromages. On a un super bon fromage. Ah. On a des miels bio aussi. Je pense à la miellerie de la Grande-Ourse. On a des produits qui sortent de la forêt directement, avec vers forêt. Mm-hmm. Donc, on a des cœurs de marguerite, des pousses d'épinettes aussi, qui en salade sont délicieux. Donc, on a toutes sortes aussi de confitures, des bières. On a plusieurs brasseries artisanales dans la région. En fait, chaque ville, chaque grande ville presque a sa microbrasserie avec le Prospecteur à Val-d'Or, le Trèfle Noir à Rouyn-Noranda. Il y a Belgebrasse à Amos et Barbebrou à Ville-Marie. Donc, ils sont là. On a un verger aussi qui fait des cidres de pommes. On a un vignoble aussi au Témiscamingue, bon, le domaine des Ducs. Donc, il y en a pour tous les goûts, je pense.
Ben, écoutez, madame, on ne s'ennuie pas dans votre région. Et si on veut satisfaire sa curiosité en histoire ou dans le domaine de la nature ou si on veut satisfaire à son palais, tout est là.
Bon, ben, écoutez, on n'a pas parlé des restaurants, du tourisme autochtone aussi.
Oui. Donc, beaucoup sont accessibles aussi chez vous, au niveau de la restauration?
Oui, au niveau de la restauration aussi. Puis ça, partout dans la région, il y a d'excellents restaurants, vraiment à découvrir.
Merci beaucoup, Mme Belzile, de nous avoir fait faire ce petit tour d'Abitibi-Témiscamingue, accessible, très rapide. Mais écoutez, encore une fois, ça nous donne envie de prendre la route puis d'aller traverser cette longue route là qui n'en finit plus pour aller vous rejoindre.
Oui, ben, après, promis, l'accueil vaut la route.
D'accord. Merci, madame. Bonne journée.
Au plaisir. Bonne journée.
J'ai gardé avec moi Maxime Despomerleau. Je voulais qu'on prenne une petite minute pour parler du Théâtre de la Roulotte.
Oui, c'est un théâtre pour enfants qui, chaque été, propose des spectacles gratuitement dans les parcs. Et donc, j'avais envie d'aborder le thème de cette année, le spectacle Bras de fer, qui est un enfant robot de 11 ans qui migre à Montréal avec ses parents en provenance d'un pays inconnu. Ils arrivent par bateau, rouillés par l'eau de mer. Il devra faire fi de cette corrosion et apprendre à vivre avec ses cicatrices pour être accepté dans le groupe de ballons chasseurs, la gang des Wanna Bieber. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Justin Bieber à ce moment-là. Et pour moi, c'était vraiment une manière habile et intéressante d'aborder la question des réfugiés, puisqu'on est, entre autres, là-dedans, beaucoup à Montréal.
Y compris à Montréal, bien sûr.
Donc, c'était quelque chose que je trouvais qui était charmant. Ça a lieu jusqu'au 23 août, donc on est dans les dernières représentations en ce moment. C'est dans différents parcs, entre autres à Hochelaga, Maisonneuve, Saint-Léonard et ce soir, qui sont à Côte-des-Neiges et demain à la salle.
C'est parfait. Merci infiniment d'être resté pour nous donner cette information-là, Maxime. Et à bientôt.
À bientôt.
Bonne journée. On aime l'été, toujours. Alors, nous étions en Abitibi-Témiscamingue il y a quelques minutes, mais là, retour sur l'île de Montréal avec Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Bonjour, Monsieur Parenteau.
Oui, bonjour, bon après-midi.
Mais à vous de même, cher monsieur. Monsieur Parenteau, monsieur le maire, le 8 août dernier, vous avez réouvert le parc Wilson, qui a été réaménagé, c'est bien ça, pour être maintenant entièrement accessible, c'est ça?
Exactement. C'est un projet on a un programme de réflexion de l'ensemble de nos parcs dans l'arrondissement et le parc Wilson était le premier d'une suite de parcs qu'on aura qui seront adaptés universellement pour permettre à plus de gens possible d'en profiter.
Alors, et qu'est-ce qui a été aménagé au juste?
En fait, c'est l'ensemble du parc qui a été aménagé. Puis on parle d'accessibilité universelle, on va parler de certains niveaux. Par exemple, pour l'utilisateur, l'enfant qui a une problématique, soit qu'il va se promener avec un ambulateur ou un fauteuil roulant, il a accès au module de jeu qui a entièrement des rampes à l'intérieur. Aussi, on a un parcours qui fait le tour au niveau de... pour que la personne puisse en fauteuil roulant pratiquer des jeux un peu plus ludiques sur son parcours et participer à jouer. Et le revêtement, certaines parties du revêtement est complètement aménagée avec un revêtement caoutchouté.
D'accord.
Qui permet aussi de jouer avec ses amis. Et de l'autre côté, c'est parfois, au niveau de l'accessibilité universelle, on parle aussi, je vous donne l'exemple d'un grand-parent qui accompagne son petit-fils au parc, mm-hmm. et le grand-parent est en marchette, mais il peut aller à côté de lui en toute sécurité sans avoir à descendre dans un carré de sable et à accès à son petit-fils. Alors, et on a aussi ce qui est très, très populaire en ce moment, c'est les balançoires tandem. Parents-enfants ou amis-amis.
Ah oui?
Et ces balançoires sont adaptées aussi universellement. Alors, c'est un grand hit dans le parc.
Est-ce qu'on a le droit de faire des pique-niques sur le parc, monsieur?
Oui, absolument. Oui. Puis il y a même des espaces gazonnés aux alentours là, qui permettent aussi de faire un pique-nique. Et les parents, c'est ce qu'on voit aussi. Les parents vont s'asseoir sur les arbres. Il y a des sections. Puis il y a même des petites chaises à l'ombre qui permet aux parents de vaquer, relaxer, lire un livre, puis laisser les enfants jouer en toute sécurité.
D'accord. Et puis, j'ai entendu dire qu'il y avait deux petites maisons qui avaient été conservées, hein, c'est ça, sur le site?
Oui, bien, un peu le cachet oblige. À l'époque, c'est un parc qui est installé depuis des années à Verdun. Et à l'époque, on avait des modules en béton qui étaient des années 50-60 qui avaient été faits. Et c'est très, très ludique comme installation, mais très populaire aussi. C'est très simple. C'est décoré avec des ouvertures qui font les portes, les fenêtres. Et ce qu'on a fait, au lieu de refaire le parc et de tout enlever, ce qui était l'histoire un peu du parc, on les a gardés et rafraîchis en les peinturant de couleurs vives. Là, puis, ils attirent beaucoup l'attention des jeunes. Ils sont très utilisés.
Est-ce qu'elles sont ouvertes, donc? Ils peuvent aller jouer dedans, les jeunes?
Oui, absolument. Absolument. Ah oui. Les gens, ils vont, ils rentrent, ils sortent. dans le fond, un parc, c'est un peu ça. Hein. On fait les installations, mais tout le reste de l'usage, c'est la créativité des jeunes. C'est ce qu'on veut susciter aussi.
Puis en cas de pluie, ça va être bien pratique.
Oui, exactement. Puis... Non, c'est un très beau parc, puis on est très fiers du résultat.
Ben oui, je comprends. Par simple curiosité, monsieur le maire, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un réaménagement qui n'est pas pensé pour l'accessibilité universelle?
Non, pas du tout. Non, en fait, puis moi, je suis un peu la pointe un peu des installations au niveau de l'accessibilité universelle dans notre arrondissement. On a fait, et ça vient aussi dans le cadre d'une politique qu'on a mise en place à l'arrondissement sur l'accessibilité universelle. Alors, tous les aménagements, les futurs aménagements sont faits en fonction de l'accessibilité universelle. Et moi, je dis souvent, c'est que l'accessibilité universelle n'est pas une dépense, mais un investissement. Et quand c'est planifié à l'avant, en amont, c'est simplement des ajustements qui font en sorte qu'on aménage et ça ne coûte pas du tout plus cher.
Et puis, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Parce que pour vous, justement, qui voulez à tout prix hein, que l'accessibilité universelle, soit à l'ordre du jour à Verdun, est-ce que vous avez d'autres projets pour la communauté?
Absolument. Dans les mois qui viennent, ce mois-ci, justement, on va ouvrir notre nouvelle salle qui est un lieu culturel qui s'appelle le Quai 5160.
Oui.
Et cette place, c'est une maison de culture qui est complètement accessible universellement, autant pour les spectateurs au niveau de l'accès au lieu, à l'ensemble du bâtiment, mais aussi pour le jeu. Exemple, une troupe de théâtre qui voudrait, avec des gens à mobilité réduite, ont accès à la scène et peuvent pratiquer. Et quand je parle d'accessibilité universelle, il y a le côté passif et actif. Et on s'efforce de faire toujours des concepts qui permettent aussi aux gens de la personne de pas juste regarder, mais de participer. Alors, la scène, on peut faire du théâtre, c'est accessible. Et on a commencé présentement notre projet de plage qui sera terminé d'ici la fin de l'année. Et la plage de Verdun qui descend, on va se baigner dans le fleuve, elle est accessible universellement.
Alors, fantastique.
Oui, il y a une rampe qui descend et on peut descendre en fauteuil roulant dans le fleuve en toute sécurité. Il y a un espace aménagé. Alors, c'est pas juste des paroles au niveau de l'accessibilité universelle, mais on est vraiment dans le concret. Et aussi, le projet qui est fort qu'on aura pour les prochaines années est la réflexion complète de l'auditorium de Verdun qui sera accessible universellement autant pour les spectateurs que pour les joueurs. Les glaces vont être faites en fonction de pouvoir permettre le jeu de hockey luge. Alors, des équipes de hockey luge pourront participer aussi.
Wow. Ben, écoutez, je suis vraiment très, très impressionnée. Je veux croire que dans tous les arrondissements de Lille, tous les efforts sont mis, mais là, vraiment, à Verdun, il y a aucun doute que vous le faites et que, bravo, cher monsieur Parenteau.
Oui,
et je suis... Oui?
Oui, et tant mieux si on peut servir d'exemple aux autres arrondissements.
Oui, vous avez raison.
Pour dire finalement, oui, ça se fait, puis c'est pas plus cher.
Vous avez raison, M. Parenteau. Alors, je rappelle que ce parc Wilson a fait peau neuve et qu'il a été réouvert le 8 août dernier. Pour les gens qui ne seraient pas de l'arrondissement de Verdun et qui voudraient y aller, il est situé où à Verdun exactement?
Il est dans l'ouest de Verdun, c'est la rue Brown et Bannatyne. C'est juste à l'arrière de la bibliothèque Jacqueline de Repentigny, qui est la bibliothèque municipale à Verdun.
OK, qui doit être elle-même aussi accessible, bien sûr.
Absolument, comme tous nos bâtiments.
Bon, tenez, pendant que je vous parle, je voulais juste vous poser une question. Avec les travaux en ce moment que nous connaissons, Turco, etc., je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur de s'installer à Verdun parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont être un petit peu retenus prisonniers. C'est pas vrai, ça, hein?
Pas du tout. En fait, les mesures de mitigation sont en place. Les travaux, déjà, les grands chantiers, exemple que ce soit Champlain-Turcot, sont déjà commencés depuis 2-3 ans. Puis déjà, il y a les accès. Quand on ferme un accès, il y en a un autre qui rouvre ou des choses comme ça. Et même, je vous dirais qu'il y a une sensibilité parce que, étant maire, je suis très sensible à la question.
Bien sûr.
L'accessibilité universelle, quand on va faire une conduite qui part, je m'assure qu'on a des rampes par-dessus les entraves.
Bravo.
Pour permettre aux gens de se déplacer. Mais non, pas du tout, fait. Puis, à court terme, on va être encore plus accessible parce que toutes les voies d'accès vont être bonifiées dans le secteur du Grand Sud.
Bon, alors n'ayons pas peur d'aller vivre ou d'aller visiter Verdun. Voilà.
Absolument pas.
Et d'aller prendre un bon petit café sur la rue Wellington ou sur la rue d'Église, voilà.
Exactement.
Je vous remercie beaucoup, M. Parenteau, maire de Verdun, et bravo pour ce parc Wilson qui a fait peau neuve et qui est maintenant accessible universellement. Merci infiniment.
Merci, bonne journée à vous.
Au revoir. Non, merci, merci. Non, je t'ai plus. Joe Cocker, bien sûr, sur les ondes de Canal M. Et tout de suite, notre chronique justice, et aujourd'hui même justice à deux vitesses, avec Laurent Capistran Trépanier. Je l'aurais jamais. Laurent, pauvre Laurent, je m'excuse tellement. Quand je répète, je l'ai toujours du premier coup. Puis quand je vous parle, je ne l'ai plus. C'est terrible.
Il n'y a aucun souci, vous êtes pardonné, madame.
C'est vrai. Merci beaucoup, Laurent. Alors, Laurent, justice à deux vitesses, le facteur économique. Vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le sujet.
Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que, en fait, quand on parle du système de justice, et puis c'est un terme qui est à la mode, hein, l'accès à la justice.
Oui, l'accès,
on
oui.
On peut penser à plusieurs facteurs, en fait, qui viennent jouer sur cet accès-là à la justice. Oui. Bon, on peut penser évidemment à des facteurs internes, comme par exemple des préjugés du personnel, que ce soit la culture judiciaire ou encore un langage, un vocabulaire hein, qui est propre au système judiciaire et qui est lourd, qui est difficile à comprendre. On peut aussi penser à des facteurs externes, comme par exemple l'éducation des gens qui vont se présenter devant le système ou en fait le degré de compréhension qu'ils ont du système judiciaire ou encore un facteur économique. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du facteur économique parce que c'est généralement celui-là qui nous vient en tête. Donc, c'est généralement celui-là auquel on pense quand on pense aux inégalités qui peuvent se produire à l'intérieur de ce système-là. Mais évidemment, avant de me lancer dans le facteur économique, il faut bien comprendre qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont tous interreliés et qui, en quelque sorte, vont s'influencer mutuellement. Donc, on va avoir de l'effet les uns sur les autres. Donc, mais aujourd'hui, je vous parle de ce facteur-là, mais quand même important de garder en tête cette généralité-là aussi.
D'accord.
Donc, on sait instinctivement, comme je vous le disais, on sait tous que la justice, ça coûte cher.
Oui, mais on ne sait pas à quel point. Oui, c'est ça.
À quel point, exactement. Ouais. C'est ça toute la question.
Donc, mais oui.
Pour se mettre en contexte, en 2016, on décrivait que le seuil de faible revenu tournait autour d'environ 24 000 $
24 000, hein? OK.
24 000 environ. Et si je vous mets ça en comparaison, disons, avec des frais qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un processus judiciaire, on se rend compte que 24 000 $ c'est peu pour faire face à tout ça.
Par exemple, monsieur.
Une expertise peut coûter, en fait, qu'on voudrait présenter au juge dans certains dossiers, pourrait coûter entre 1 500 et 2 000 $ Ou encore, autre exemple, lorsqu'on veut déposer une demande devant différentes instances, il faut la faire timbrer, ce qu'on appelle timbrer. Donc, on
D'accord.
Et on obtient un timbre judiciaire. Et ça nous coûte des sous aussi. Donc,
c'est
exemple,
combien?
En cours supérieur, on peut parler de 510 $ Donc, vous voyez, c'est des frais qui sont importants. Hein?
510 $ simplement pour timbrer une demande.
Une demande, exactement. Donc, c'est des frais qui sont dispendieux et c'est en ce sens-là qu'on dit que la justice coûte cher et qu'il y a une inégalité. Donc, or, on se dit, il existe tout de même l'aide juridique pour les gens qui auraient moins de revenus. Or, est-ce que la question qui se pose est la suivante, c'est est-ce que cette aide juridique-là permet effectivement de venir combler cette inégalité-là par rapport aux sous que la personne
peut. Oui. Alors, la réponse?
La réponse, ben, vous commencez à me connaître, Mme Tay, elle est mitigée. C'est au sens où on peut penser qu'effectivement, les gens qui profitent de l'aide juridique ne jouissent pas d'une égalité complète devant la justice. Pourquoi maintenant? Eh bien, pourquoi? Ma réponse commence avec les taux que les avocats chargent finalement.
Oui.
Donc, on pense à un taux horaire médian là, pour les avocats qui peut aller jusqu'à 200 $ de l'heure. Et malgré ça, il y a quand même 34 % des avocats au Québec qui ont un taux qui est supérieur à 200 $ de l'heure. Donc, tout ça pour dire que les frais d'avocat, c'est très cher. Et selon la complexité du dossier, bien, on peut penser à plusieurs dizaines d'heures. Hein?
Oui.
En comparaison, un avocat de l'aide juridique, pour les matières qui sont autres que criminelles et pénales, eux, ils vont toucher un montant forfaitaire. Donc, selon l'acte juridique qu'ils vont poser, ils vont obtenir entre 70 et 610 $ de remis à l'avocat. Donc, eux, où je veux vous amener avec tous ces chiffres-là, c'est de vous dire que pour sa propre survie, l'avocat de l'aide juridique, pas qu'il est un mauvais avocat, mais il doit prendre davantage de dossiers pour arriver à faire sa pratique comparé à un avocat qui va charger 200 $ de l'heure.
Bien sûr.
Donc, bien que la compétence de l'avocat soit probablement équivalente à celle de son collègue, on peut penser qu'il a consacré moins de temps à son dossier et qu'il a parlé moins longtemps avec son client.
Exactement.
Donc,
Exactement.
En ce sens-là, en fait, on peut souligner que déjà, il y a une inégalité dans le temps qui est consacré à chacun de ces dossiers-là.
Ouais.
Pour les avocats qui vont former une pratique qui est constituée de mandats d'aide juridique.
Oui, oui, oui.
Autre élément qu'on peut souligner aussi, c'est que l'aide juridique n'accepte pas toutes les causes. Même si on est au niveau des sous, on est admissible, eh bien, ça ne veut pas pour autant dire que notre demande va être acceptée. Je vous donne un exemple pour clarifier mon propos, c'est que, par exemple, en matière de diffamation, si on a subi de la diffamation ou si on pense avoir été diffamé,
oui.
donc on ne pourra pas avoir l'aide de l'aide juridique. Donc,
okay.
en ce sens-là, ce n'est pas couvert, cette okay. matière-là, par l'aide juridique. Donc, ça, c'est un autre exemple aussi qui vient démontrer comment, lorsqu'on a peu de sous, eh bien, il y a certaines avenues, hein, il y a certaines oui. voies de ce système judiciaire-là qui nous sont finalement fermées.
Ben exactement, interdite, hein, carrément. Plus tu as de l'argent et plus tu peux te défendre, et c'est malheureux à dire parce que c'est comme ça qu'on voit des gens qui sont un peu malfaiteurs sur les bords, qui sont bourrés de fric, mais qui peuvent se faire défendre. Hein.
Exactement.
Et c'est dommage. Hein.
C'est malheureux puisque, en fait, tout le monde devra avoir droit.
Bien sûr. Exactement. Laurent, je vais être obligée de couper court. C'est pas que je trouve désagréable tout ce que vous avez à nous dire. Je trouve ça toujours passionnant. Malheureusement, la ligne avec le cellulaire est vraiment pas tellement bonne aujourd'hui. Mais on a quand même réussi à vous comprendre et on vous en remercie beaucoup. Ça nous a informés. Hein? On aime mieux savoir que vaut mieux pas avoir affaire à la justice. Hein?
Oui, et bien, il existe quand même des alternatives. Mais oui. Effectivement, c'est important de souligner aussi les critiques qui peuvent être faites à
bien sûr. Je vous remercie beaucoup, Laurent, et je vous souhaite une très belle fin de journée.
Ben, c'est moi qui vous remercie, à vous et à vos auditeurs.
Allez, merci, au revoir.
Au revoir. See if you can spot this one.
Merci, M. Clapton. C'est toujours bien agréable. Et merci à M. La Liberté qui a toujours le don pour nous sortir les bonnes tunes au bon moment. 9 jeunes avec une déficience intellectuelle auront leur appart à eux grâce à l'appart à moi. 9 jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle franchiront un pas de plus vers l'autonomie et concrétiseront une grande étape de leur vie, habiter dans leur propre appartement. Le projet verra le jour au printemps 2018 sur le chemin de Chambly dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Le bâtiment, tout neuf, abritera 10 logements, un 4,5 et des studios et accueillera des jeunes adultes de 25 à 32 ans. Un intervenant demeurera sur place afin d'assurer une certaine supervision, alors que chacun des résidents occupera une activité de jour, que ce soit un emploi ou du bénévolat. Le bâtiment, dont la construction débutera à l'automne, comptera une aire commune. Chacun à sa manière pourra aider à préparer le souper sous la supervision de l'intervenant, explique le président de l'organisme L'Appart à moi, Daniel Leblanc. On veut créer une vie communautaire. Oui, ils auront leur studio, mais on avait aussi un souci qu'ils ne s'isole pas. Ce dernier est le père de 3 enfants, dont un ayant une déficience intellectuelle. J'aime de plus en plus l'expression « différence intellectuelle » utilisée par Annie Pelletier, marraine des Olympiques spéciaux, précise-t-il. Son garçon, Marc, a bien hâte d'habiter son nouvel appartement. Ils sont tous fébriles, nerveux, excités. C'est une très grande étape pour eux, relate M. Blanc. L'idée de l'appart à moi est née d'une interrogation qui tiraille tous les parents de jeunes ayant une différence intellectuelle. Que lui réserve l'avenir? Alors, après avoir parcouru l'offre actuelle, notamment via le réseau de santé, Daniel Leblanc a constaté la très forte demande et que le modèle imaginé n'existait tout simplement pas. Alors son épouse et lui se sont entourés de parents qui vivaient la même réalité qu'eux et accompagnés des experts d'Atelier Habitation Montréal, ils ont jeté les bases de l'appart à moi. L'organisme a été créé en 2012, l'idée de départ étant de trouver un bâtiment auquel des rénovations pourraient être apportées. Ils ont finalement privilégié l'option de l'achat d'un terrain et de la construction neuve. La simple étape de trouver le terrain adéquat a pris 1 an. L'emplacement devait être accessible en transport en commun, compter des commerces de proximité et répondre à plusieurs autres critères. Le concept est nouveau, on est en train de le développer. C'est un modèle qui pourrait être repris ailleurs, évoque M. Leblanc. À vélo pour découvrir son quartier, 1 an presque jour pour jour après avoir lancé son programme de randonnée en triporteur pour aînés au sein de la résidence Saint-Louis à Orléans. Voilà que Soins Continus Bruyères vient de doter son établissement de la rue Bruyères dans le marché Baille du même genre de service. Nous sommes à Ottawa. Grâce à un don de 10 000 $ de la fondation Taggart Parkes, les quelques 70 résidents de la résidence Elisabeth Bruyères à Ottawa pourront briller briser le moule de la solitude en prenant de bonnes bouffées d'air frais tout en profitant de randonnées à vélo dans les rues du quartier. Bien installés dans un siège situé à l'avant de la bicyclette, les passagers seront conduits par un bénévole. Le lancement de l'initiative à vélo sans âge dans le marché Baille a eu lieu mercredi après-midi dans le jardin arrière de l'édifice du 75 rue Bruyères et près d'une quinzaine de pilotes bénévoles ont été formés pour promener ces résidents de l'endroit. L'Association sportive des aveugles du Québec, la SAC, qui a pour principal mandat de favoriser le développement du sport pour les personnes handicapées visuelles, est à la recherche d'un ou d'une assistant, assistante, entraîneur en goalball. Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae en format Word seulement à l'Association sportive des aveugles du Québec, à l'attention du comité de sélection par courriel. Il suffit de faire nchartrand, comme ça se prononce, nchartrand avec un D, @sport@qc.ca et les entrevues auront lieu le mardi 12 septembre. Il faut vous inscrire si vous êtes intéressé par ce poste avant le 8 septembre prochain. Et puis, arrivée du tour cycliste des policiers du SPVM au profit des jeunes athlètes du défi sportif Altergo à Boucherville, le 19 août prochain, près d'une vingtaine de policiers du service de police de la ville de Montréal seront de passage à Boucherville, alors qu'ils termineront la sixième et dernière étape du tour cycliste au profit des jeunes du défi sportif Altergo. Notons que du 14 au 19 août, les policiers parcourront près de 1100 km à travers le Québec, beau temps, mauvais temps. Lors de leur arrivée à Boucherville, des jeunes athlètes du défi sportif Altergo seront présents pour acclamer et accueillir les policiers au terme de ce tour cycliste. Alors, la 21e édition du tour cycliste des policiers du SPVM, l'arrivée est prévue le 19 août entre 15h et 16h devant la cage, une brasserie sportive située au 1180 Place Nobel à Boucherville. 1180 Place Nobel à Boucherville. Allez les applaudir, ça vaut le coup. Alors voilà, ainsi s'achève M Magazine, M l'été magazine pour aujourd'hui sur les ondes de Canal M, animé pour vous par Clotilde Seille. Et merci à tous mes invités, à mon équipe au grand complet. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain jeudi dès midi. Salut!